Les investissements Rivemont offrent des stratégies de placement novatrices et performantes s'adressant aux individus et familles prospères de la région. 819-246-8800. Rivemont.ca.
Bon, mais ça sera notre dernière pour cet été, parce qu'évidemment, il prend l'été de congé. Martin Lalonde de Rivemont, gestionnaire de portefeuille là-bas. Salut, Martin.
Allô, Rec.
C'est vrai ce que je viens de dire?
Oui, c'est vrai.
L'été de congé?
Mais non, non, non. Les congés des chroniques?
Oui.
Oui, c'est tout, parce que le reste, on travaille.
Ah, bon. Puis on va en profiter aujourd'hui, Martin, pour, dans le fond, faire un genre de bilan de ce qui s'est produit sur les marchés, mais aussi tenter de polir ta boule de cristal.
Oui.
Alors, on va commencer par... Ben, c'est ça?
C'est ça.
Bon, parfait. Je suis poli, là?
Très poli.
Bon, parfait. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé. Où est-ce qu'on en est présentement avec les rendements puis le marché?
Bon, on en est où présentement? On en est à un très bel endroit. Hier, le TSX, S&P TSX, le marché canadien, a fermé à son plus haut de tous les temps. Donc, on est dans un effet, on est dans un marché haussier. Il y a un effet momentum qui a pris de l'avant, si on peut dire, depuis le début de l'année.
Un joueur de hockey, ça?
Oui, c'est ça.
Momentum?
Non.
Tu pognes pas ma joke, hein?
Non.
T'as jamais entendu ça?
Non.
Je veux pas te dévier, là. Ben oui, parce que toi et le club ont un mot « momentum ».
OK.
Quand on dit « le club est un beau momentum », « momentum ».
Oui, oui.
OK, ça va être bon. Bon, c'est correct. Ils ne sont pas tous drôles, mais il y en a qui appognent plus vite que d'autres, par exemple.
OK. Donc, on a commencé difficilement l'année, premier mois difficile, mais par la suite, ça a super bien été. On commence, comme on avait prédit également, mais on en avait parlé au début de l'année sur la chronique, à avoir, une spéculation de plus en plus forte. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a de plus en plus de titres qui montent sur des nouvelles plus ou moins vraies et non nécessairement liées à une hausse de leurs profits. Nous, juste pour te donner un exemple, comment cet effet-là commence à avoir lieu, on a deux titres dans nos portefeuilles qui ont fait 30% dans une seule journée la semaine dernière. Donc, c'est des très bons rendements pour nos investisseurs, mais ça montre aussi qu'il y a de l'exagération qui commence sur les marchés. Est-ce que c'est bon d'en profiter? Absolument. Donc, ceux qui avaient manqué fin 98, l'année 99, sur les marchés financiers, il y a une quinzaine d'années, ça s'en a mordu les doigts parce qu'il y a eu des rendements de 40, 50, 60% dans l'année. Par contre, on sait qu'est-ce qui est arrivé en 2000, il y a eu une forte baisse. Donc, on est à peu près là présentement. On profite des derniers mois, des dernières années de marché haussier important. Donc, il va y avoir de l'exagération, il va y avoir des belles opportunités au niveau de la spéculation, mais il faut commencer à faire attention.
Puis, il faut savoir quand vendre.
Il faut savoir quand vendre, absolument.
Par exemple, dans ceux qui ont augmenté 30% en journée.
Dans les deux titres qui ont augmenté, on en a vendu un des deux. Les deux, c'est lesquels? Donc, on a Canada Goose qu'on avait rentré dedans autour de 40 $ et qu'on a vendu quand il a doublé. Dans le fond, on a fait 100% de profit en moins de deux semaines. Donc, ça a été quand même assez incroyable. Cette run-là, si on peut dire. Et on a Etsy, qui est un titre, un marchand en ligne américain sur le marché de l'artisanat, qui a fait 36% dans une journée la semaine dernière aussi.
Mais tu l'as gardé.
Lui, on le garde un peu plus long parce qu'on pense que ça va continuer à bien aller. Et surtout, qui est dans un secteur qui va hyper bien maintenant.
Et pourquoi Canada Goose a doublé comme ça?
Des projections de vente qui sont à la hausse, des ouvertures de nouveaux magasins. Ils s'en vont à l'international, ils ont le capital pour le faire et on voit que la demande est hyper élevée, notamment dans les pays asiatiques et dans les pays qui connaissent un peu l'hiver comme nous.
Je t'ai pour te dire ça. Le magasin Simons de la rue Sainte-Catherine à Montréal a l'inventaire le plus important de Canada Goose au Québec. Puis là, je m'avance un peu quand je dis ça, mais c'est ce qu'on m'a expliqué.
Oui.
À part, je connais pas, est-ce qu'il existe des magasins Canada Goose au Québec?
Bien, présentement, ils ont annoncé qu'ils étaient pour ouvrir le premier sur Sainte-Catherine à l'automne.
Bon, fait qu'on risque de voir des effets, mais alors on m'expliquait que Canada Goose chez Simons, c'est à l'automne. C'est incroyable comment les Asiatiques dévalisent le magasin. Et puis c'est des manteaux de 1000 $ là. J'arrondis, là, mais n'importe où, entre 700 et 1200. Là.
Oui.
Puis ça dépend de ta fourrure, ça dépend de plein de choses. Mais le marché asiatique, notamment avec la question du dollar par rapport à, par exemple, au yen ou peu importe, c'est un magasin qui passe à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections de Canada Goose. Alors, il y a une effervescence pour le Canada Goose un peu partout au Canada.
Absolument. Mais est-ce que ça veut dire que le titre a bien fait de doubler en l'espace de deux semaines? On n'est pas certain. On a pris notre profit. C'est un titre qui va demeurer sur notre radar parce que c'est quand même super intéressant comme jeu. Et on va le regarder au cours des prochains mois.
C'est une bonne idée d'ouvrir des boutiques dédiées au Canada Goose?
Absolument.
Oui.
Absolument. Quand on a une boutique dédiée à notre produit, par exemple Apple, par exemple d'autres produits comme ça, on peut se permettre d'avoir des marges qui sont beaucoup plus élevées sur nos produits parce qu'on a payé moins. Dans le fond, il y a un jeu fiscal qu'on peut faire entre l'argent du détaillant et l'argent du producteur pour permettre de notamment éviter certaines taxes et avoir une meilleure marge.
Je comprends, parce que tu vendras pas plus. Le Canada Goose que tu prenais chez Simons, tu risques de l'acheter en boutique, fait que tu n'augmentes pas tes ventes. Tu diminues tes dépenses?
On diminue certaines dépenses et aussi on garde le caractère distinctif de la marque. Puis ça, c'est important parce que chez Simons, par exemple, ils ont des manteaux à 1 000 $, mais ils ont aussi des manteaux à 130 $. Donc, la clientèle qui va se présenter chez Simons, puis je dis un exemple, 130, c'est peut-être un peu plus, va être ouverte à tout. Tandis qu'une clientèle qui va se présenter chez Canada Goose va y aller pour payer des certains montants. Donc, en même temps, on peut avoir dans la boutique des produits, je dirais, communs, qui sont pas nécessairement des manteaux, mais qui sont pour à valeur plus élevée.
Mais est-ce que l'objectif, c'est aussi de laisser du Canada Goose chez Simons ou de retirer la collection pour l'avoir qu'en boutique?
C'est une bonne question. J'ai pas la réponse par rapport à ça, mais on sait qu'il y a la plupart des grandes marques de luxe, si c'est là qu'ils veulent s'en aller, ont commencé à retirer leurs vêtements chez les détaillants, notamment par exemple Lacoste et des choses comme ça.
Ouais. La conséquence de ça, par exemple, c'est que est-ce que tu vas partir, si tu es un Canada Goose, est-ce que vraiment tu vas partir de Gatineau pour aller dans la boutique Canada Goose à Montréal?
Non, mais l'objectif de Canada Goose, à mon avis, c'est d'en avoir une dans toutes les grandes villes.
Dans le fond, on s'en vient comme Vuitton. Est-ce que si tu veux un Vuitton à Montréal, ben tu t'en vas chez Goodville. Là.
C'est ça.
Mais à part ça, tu peux pas en acheter. Mais même, il y avait une petite boutique chez Old Renfrew à Ottawa.
Et c'est la raison pourquoi les marges sont aussi élevées pour ce type de produit-là. On sait que LVMH, donc qui possède Louis Vuitton, la compagnie française, c'est la compagnie avec les marges les plus élevées dans le monde et qui fait le plus de profit.
Tu as vu le prix des sacoches?
C'est ça.
Pas sûr que ça coûte ça à produire. Là.
C'est certain que ça coûte pas ça à produire. Il y en a qui parlent qu'il y a des marges de plus de 5, 6, 700
%. Bien sûr.
Sur les produits.
OK. Donc, ça, c'était un regard actuel. Maintenant, je veux que tu frottes ta boule.
On frotte ma boule.
Ah ouais donc.
Voilà.
Au singulier.
Les prochains mois vont être très bons, selon moi. On commence à avoir un intérêt des particuliers sur les marchés financiers, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc, des gens qui n'étaient pas investis et qui commencent à s'y intéresser et qui commencent à devenir des experts sur les marchés financiers. Et ça, habituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive dans les derniers mois intéressants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a de nouvel argent qui arrive sur les marchés, de l'argent qui n'était pas investi, qui était sur les côtés et qui, là, arrive sur les marchés financiers par des individus qui vont, la plupart du temps, spéculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller avec les titres à la dernière mode, les titres qui sont les plus intéressants, les titres qu'ils entendent parler dans les journaux, les titres que leurs amis en ont parlé.
Que tu parles à la...
Que je parle à la radio.
Oui, c'est ça.
Donc, habituellement, c'est une période qui dure entre 6 mois et 1 an et demi, cette période-là, où tout le monde se lance dans l'investissement parce qu'il y a des belles opportunités. Et c'est là qu'on peut faire des très beaux rendements. Donc, on arrive là, selon moi, en 7e, 8e manche. Et notre objectif, c'est d'en profiter. Par contre, il faut faire très, très attention à partir de maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les titres les plus faibles de notre portefeuille, on les élimine. On commence à les éliminer. Donc, des titres qui ont moins bien fait par rapport à leur pair, on les élimine du portefeuille. Et aussi, une autre chose qu'on fait qui est important, c'est qu'on vérifie qu'on n'a pas un portefeuille trop concentré dans un certain secteur. Donc, au cours des dernières années, le secteur de la haute technologie a hyper bien été. Le Nasdaq a été le leader des marchés nord-américains. Et il y a des portefeuilles qui peuvent être rendus à 35, 40, 45 de leur portefeuille en titre de haute technologie.
Trop haut.
Trop haut. On commence à les couper.
Excellent. Ben, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir, Rock.
Passe un bel été. Je veux prendre une minute pour te faire un commentaire personnel. Parler sans tableau, sans support visuel, parler de finances personnelles, c'est tout un défi. Et évidemment, c'est ce qu'on vit à la radio. On est obligé, on est dans le tour, on est à la maison, on est au bureau ou sur notre application, puis on écoute des discussions sur des finances personnelles. C'est pas facile à faire. Et je veux te féliciter parce que tu as réussi à vulgariser cela. On joue ensemble, on rit ensemble. Et j'ai beaucoup de feedback, moi, du monde qui disent « Mon Dieu, c'est intéressant. Tu sais, ça pourrait être un sujet très aride. » Alors, c'est pas donné à tout le monde. Les vulgarisateurs, particulièrement en finance, que ce soit en médecine, en finance ou en ingénierie, c'est pas simple. Puis tu réussis très bien. Alors que ce n'est pas ton métier de base.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Je veux te remercier de faire confiance au 104.7. Merci beaucoup d'aider nos auditeurs à faire de meilleurs placements. Puis c'est avec plaisir qu'on va te retrouver à l'automne.
Absolument. Merci à
toi. Merci. Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont.